Bon, le débat est ouvert. Est-ce que quelqu'un veut... Il y a seulement des tas de questions à reprendre dans ce texte, qui est quand même une bonne introduction. Ollier, qui, je précise, a préparé les offres complètes de bataille pour Gallimard.
Oui, mais j'enchaînerai sur tes premiers mots. En finir avec le monothéisme, c'est assez curieux dans la mesure où... Oui, tes derniers mots. Alors que justement, bataille commence... Les premiers articles de document portent sur le manichéisme et justement sur une affirmation contre Breton précisément de ce qu'il appelle le caractère salubre des contradictions et des antinomies qu'il reprochait à Breton de vouloir réconcilier. Donc, ton dernier mot est donc le point fondamental en ce qui concerne les rapports de bataille et de surréalisme.
Vous permettez à des gens comme nous qui ne connaissons pas très bien ni la pensée de l'un ni la pensée de l'autre. Vous faites des allusions dans lesquelles vous vivez, vous vivez. Nous, pas du tout. Alors, quelles sont, si possible, en quelques mots, les oppositions fondamentales entre Breton et Bataille, pour que nous puissions suivre votre discussion.
Oui, là, j'évoquais un texte qui est un des premiers textes théoriques de Bataille, qui porte précisément sur le manichéisme, c'est-à-dire sur une attitude d'esprit qui oppose deux principes qui se contredisent, le bien et le mal, le haut et le bas, la matière et l'esprit. Et au même moment, Bataille rompait et écrivait un pamphlet contre Breton, lui reprochant précisément, et en général à la philosophie surréaliste, de supprimer et de négliger l'importance des contradictions. Autrement dit, on pourrait dire que l'opposition entre Bataille et Breton se résume en ceci, que précisément, aux yeux de Bataille, Breton et le surréalisme tentent à oublier et à dissoudre les contradictions, alors qu'au contraire, Bataille a toujours voulu les réactiver.
Oui, mais alors,
on pourrait dire...
29. Oui, c'est-à-dire au moment du cadavre.
L'apparition de documents, mais précisément, ce qui montre le caractère un peu circulaire de leur discussion de l'époque, c'est que Breton lui renvoie le grief dans le second manifeste surréaliste avec beaucoup d'âpreté en lui reprochant de n'être, lui Bataille, qu'un retour au matérialisme mécaniste, donc non dialectique, donc ne sachant pas penser à la contradiction, ce qui fait que finalement il se retrouve dans cette année 30 qui est le maximum de leur dissension, il se retrouve un peu dos à dos s'envoyant le même argument à figure. Ce qui peut laisser entendre qu'en effet, alors, dans les moments où ils se retrouvent, il y a quelque chose de cet argument qu'ils ont laissé tomber là, par rapport à l'autre. Quoi exactement, c'est ce qu'on peut se demander. Quand ils se retrouvent soit en 1935, dans contre-attaque, soit dans l'après-guerre, au-delà de l'effondrement du fascisme européen, enfin allemand et italien. Qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui fait qu'ils se reconnaissent l'un l'autre après les querelles extrêmement âpres des années.
Oui, mais alors là, je crois que sur ce plan, disons, de ces retrouvailles d'après-guerre, il ne faut quand même pas les exagérer. Après-guerre, je crois qu'il y a un élément qui est fondamental, qui est le fait que Bataille a renoncé à constituer un groupe. La volonté de constituer un groupe est un des thèmes de l'opposition stratégique et tactique à Breton avant-guerre. Après-guerre, Bataille ne veut plus fonder un groupe. Donc sur ce plan-là, l'opposition à Breton n'a plus de raison d'être. Bon, sur le plan de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie ou l'esthétique surréaliste, à ce moment-là, les choses, si vous voulez, je crois, se décident sur deux points. D'une part, il y a une reconnaissance de la valeur de l'écriture automatique, et l'article de Blanchot, qui avait paru dans l'Arche à ce moment-là, a été certainement essentiel dans cette position de Bataille par rapport à l'écriture automatique. Et par ailleurs, il reste toujours la critique que Bataille fait, disons, de la production d'œuvres surréalistes, qui est une espèce de fétichisme, et Bataille oppose toujours, en quelque sorte, l'exigence du mouvement surréaliste et la réalisation, ce qu'il appelle d'œuvres figées. Il oppose les œuvres qui sont figées avec le mouvement surréaliste. Autrement dit, l'existence même du surréalisme ne peut être assumée aux yeux de Bataille, après-guerre, que sur un mode contradictoire.
qui n'empêche pas du tout le même bataille de parler des admirables poèmes de Benjamin Perret, qui sont ce que vous appelez probablement des œuvres figées.
Oui, mais envisagées en tant que poème.
Alors, en tant que poème, en tant que œuvre, en tant que poème, en tant que quoi? Ce sont des œuvres, ce sont des poèmes, ce sont des traces écrites, non? Ce sont bien des œuvres.
C'est un jugement esthétique sur des poèmes. Bon, reste à situer justement ce qu'est un poème par rapport à l'exigence surréaliste.
Eh bien, les poèmes de Perret étaient partie intégrante de l'exigence surréaliste, et c'est ce que Bataille a très bien vu en les qualifiant d'admirables. Il n'avait rien de contradictoire, qui était tout uniment l'admiration devant un poème qui doit déclencher ce qu'on a oublié aujourd'hui avec un certain tour que prend la critique, qui doit déclencher d'abord un mouvement de la sensibilité, quitte après à l'intellectualiser si on veut. Dans tous les cas, spontanément, Bataille parle des admirables poèmes de Benjamin Perret. Ils sont donc des œuvres.
Non, ça veut dire
une terminologie normale.
Oui, bien sûr.
Oui, il y a autre chose qui s'est passé en ce qui concerne Bataille. Enfin, je regrette beaucoup qu'on fasse de l'histoire, mais s'il faut en faire, vous avez vous-même publié dans tel quel un texte qui s'appelle Les Taupes, le texte aussi bien que les notes qui l'accompagnent montrent qu'au moment où Bataille attaque Breton et où Breton lui répond à peu près, disons, mon second manifeste, à ce moment-là, Bataille ne dispose pas du tout de la clé dialectique, puisqu'il considère encore Hegel comme un simple valet du caporalisme prussien, ce qui correspond à peu près à la position qui était adoptée par l'université française à l'époque. Bon. Breton, à ce moment-là, dispose, lui, d'une approche, disons, approximative, d'une certaine approche de l'hegelianisme, ce qui lui permet, justement, de critiquer chez Bataille un retour à un matérialisme pré-dialectique. La chose a évolué ensuite, et il n'est pas douteux qu'en ce qui concerne Bataille, elle a évolué justement dans le sens d'une reconnaissance beaucoup plus affinée de la possibilité de maintenir les contradictions tout en les dominant. Alors que je pense qu'auparavant, il ne voyait que la nécessité de les maintenir et il ne croyait absolument pas à la possibilité de les concilier, autrement que sur un mode, disons, religieux, qu'à ce moment-là, pour des raisons, encore une fois, historiques, il me semble que nous ne devrions pas avoir à rentrer, il a attribué gratuitement à Breton.
Oui. Enfin, là, je vous répondrai sur deux points. Premièrement, je crois que le Hegel qui est en question dans la Vieille Taupe, c'est-à-dire 1929, et le Hegel de la logique, et qui est celui justement que cite Breton à cette époque. Lorsque Bataille sera hegelien, ça sera par l'intermédiaire de la phénoménologie de l'esprit.
Oui.
Comme
aujourd'hui nous savons très bien que ce sont deux Hegel différents dans le temps, mais qui ne sont pas différents dans l'essence.
Parce que, si vous voulez, il y a une différence entre la dialectique du maître d'esclave, qui sera ce qui rendra Bataille hegelien, et justement l'identification des contraires, hein, qui est en fait l'aspect hegelien du surréalisme. Ce sont vraiment deux secteurs du texte tout à fait différents, et que
il n'y a jamais d'identification des contraires chez Hegel, même pas dans la logique.
Oui.
C'est pas une identification.
Bon, c'est un point. Deuxièmement, justement, on arrive à ce niveau-là. Bataille n'a jamais sublimé les contradictions, comme vous avez pu le dire. Au contraire. Constamment les a maintenus, c'est-à-dire.
Oui, bien entendu, il les maintient et au début il commence par les maintenir dans l'ignorance de la possibilité de les surmonter.
Ah oui, mais il n'y a pas d'aufhebung, il n'y a pas de dépassement à aucun moment chez Bataille.
Non, probablement pas, mais il y a quand même l'amorce de ce dépassement à partir justement du moment où il connaît Kojève et où par conséquent le commentaire de Kojève sur la phénoménologie, quand même un commentaire qui vise très largement au dépassement.
Oui, oui, mais après là, on peut renvoyer aux analyses de Derrida, par exemple.
Purement littéraire.
Comment?
Je veux dire, c'est fait dans une perspective, légèrement marxiste, mais en tout cas, une perspective de dépassement. Pas la conclusion, quand même, de Kojève, c'est bel et bien le savoir absolu. Et là, c'est un dépassement, entre guillemets, c'est un dépassement qui maintient les contradictions tout en les dépassant, n'est-ce pas? C'est exactement le fait que j'ai fait au second. Mais c'est donc simplement sa marque de la part de Bataille, je crois, une très grande honnêteté de développement intellectuel qui fait qu'à partir d'un certain moment, une manière erronée qu'il avait de voir l'effort de dépassement des contradictions chez Breton cède à une vue plus juste et plus large, pas tellement du surréalisme, mais simplement, disons, même de cette influence hegelienne chez Breton.
Je crois que il faut distinguer, enfin, il y a une opposition entre Kojève et Bataille. Bataille a suivi Kojève, mais
oui.
Par exemple, les appendices.
Kojève, bon, non, pas, on sait que historiquement, oui. c'est à travers les leçons de Kojève que la vue sur Hegel en France à cette époque-là a été différente.
Oui. Oui, mais historiquement, Bataille a toujours refusé le savoir absolu.
Oui. Les Bretons aussi.
Oui, mais enfin, par rapport à Kojève, je veux dire, c'est le point justement de rupture entre Bataille et Kojève, qu'on trouve par exemple dans les lettres qui sont publiées à la fin du coupable, et par exemple dans les lettres de Kojève que j'ai publiées également dans un article, où expressément Bataille suit Kojève jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin exclue. Il n'y a pas de savoir absolu, au contraire, il y a un non-savoir qui n'a rien d'absolu.
Je crois qu'il s'agit là d'une des innombrables digressions qui seront possibles au cours de ce débat, mais je voudrais qu'on revienne au sens. Le sens, ça serait déjà expliquer le titre. Le titre de la réunion ici, c'est Bataille et le surréalisme. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui sont mises en présence, et la question se pose dans les termes suivants. Il y a, à l'heure actuelle, parce que la question de ces rapports est une question actuelle, il y a maintenant des gens qui disent que Breton, enfin, le surréalisme, d'une part, et Bataille, d'autre part, sont incompatibles. Le mot a été employé par Philippe Soler. Donc c'est un mot clair qui ne prête pas à confusion. Il y a, d'autre part, des gens qui, pour des raisons différentes, pensent qu'il y a tout intérêt à ne pas se limiter à des oppositions aussi sommaires et à faire jouer l'une avec l'autre ces deux pensées comme elles ont effectivement joué dans leur développement. Premièrement, Bataille a effectivement critiqué le surréalisme. Mais ici, je lirai une phrase de Bataille qui introduit, si je veux, un préliminaire à mon sens, à la discussion de ce soir proprement dite. Je lis cette phrase qui se trouve dans une note à la suite d'un une note à la fin de la Critique sociale, une revue que Bataille a animée aux côtés de Boris Souvarine avant l'époque du Front populaire. Le surréalisme a voulu introduire, non exactement dans l'existence littéraire, considérée comme une fonction spécialisée, mais dans l'existence tout court, un mode d'activité excédant les limites, celle que fixent non seulement les lois mais les coutumes, qui atrophient, aussi bien que la pensée et son expression, les actes et les attitudes. Les critiques formulées de part et d'autre n'ont évité l'insignifiance que dans la mesure où elles ont rapporté tel ou tel résultat au but proposé. Ce qui veut dire que lorsque Bataille écrira des articles qui sont qualifiés dans la petite brochure qui appelle qui présente les réunions de la réunion d'aujourd'hui, des textes qui seront qualifiés d'élogieux mais réservés. Lorsque Bataille effectivement reviendra, ce qui entre parenthèses est une façon totalement journalistique et hébétée de présenter la question des rapports entre deux pensées, excusez-moi, je me perds un peu parce que ces questions me tiennent à cœur. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Et je veux dire que la question des œuvres, c'est-à-dire le fait que Bataille critique non pas le surréalisme comme exigence, mais le fait que le surréalisme, d'une certaine façon, tombe dans les œuvres, je veux dire, qui, ici, parmi nous, ne se sent pas directement atteint par cette phrase? Et Bataille, l'œuvre de Bataille, en un sens, c'est toute la tension pour ne pas tomber dans les œuvres. Et Bataille, lorsqu'il dit ça, il ne se dégage pas du surréalisme, il se met dedans. Et je m'excuse d'être un peu long, mais je vais lire un texte de Bataille, un de ses textes élogieux et réservés, et vous allez voir qu'il s'agit de tout autre chose. Je lis, c'est un texte extrait de Critique, la revue fondée par Bataille, et ce texte date de 1948. Texte qui, à mon avis, pose, et je le mets au début de cette réunion parce qu'il pose l'endroit, il situe le lieu où nous pouvons aujourd'hui, à l'intérieur duquel nous pouvons parler aujourd'hui, et à partir duquel on peut effectivement amorcer une réflexion sur les rapports entre ces deux pensées. Je lis cette citation qui est assez longue. L'ordre établi qui nous est imposé est la constante négation de tout ce qui est irréductible et fier. Qui n'en est pas révolté ne peut être l'ami, il est l'ennemi de l'homme. Mais il aurait fallu pouvoir se passer de le dire
Élodie irait déjà reconnaître l'ordre établi, le reconnaître en ceci, du moins, que l'on discute. La négation des choses qu'est le surréalisme est devenue elle-même une chose. La glue des mots fait une entité, un être durable, condamnant et nécessaire de ce qui n'est pas, au sens où Sartre dit « l'instant n'est pas ». Et en effet, l'instant n'a pas lieu d'être durable, mais justement, c'est la plaie, c'est la honte du langage que démasquent les mots. Il faudrait, pour parler, qu'être désigne ce qu'est l'instant. C'est impossible. Ainsi, le surréalisme n'est pas, il ne pouvait être nommé. Et c'est à partir d'ici que je m'adresse spécifiquement à ce qu'a dit Ollier tout à l'heure, sur les œuvres. Mais que devaient faire les surréalistes? Se taire? Ils durent se dévouer et rédiger ces textes, ces tracts, qui serrent le cœur, qui appellent si lourdement le silence qu'à tout prix il aurait fallu garder, mais cela ne se pouvait pas. Bon, une autre parenthèse, il s'agit effectivement non pas de textes poétiques, de tracts, mais je veux dire que la distance entre l'exigence et le texte poétique étant moindre que la distance entre l'exigence et l'intervention, le détour objectif, l'intervention politique, ce que dit Bataille-là n'est que renforcé. Ceci n'est nul par rapport aux œuvres. Ceci n'est nullement la critique, mais l'apologie du surréalisme. Je crois même que jamais quelqu'un ne le mit plus haut. La contestation justifie, elle rend compte de ce qui semble à bon droit critiquable, de l'élément caduque et vieilli du caractère lassant des œuvres. Et elle est nécessaire à qui cherche vraiment ce que les textes signifient. Si vous vous arrêtez à la lettre, aux mots, vous oubliez que ceux-là même qui les écrivirent, c'était à l'avance interdit de les employer. C'est même la raison pour laquelle ils détonnent. Ils voulurent détonner. Ils impliquaient l'intolérance et glissèrent au fracas. Ce mauvais ton, cette enflure, cette propension à noircir le gris, comment les imaginer évitables si l'on aperçoit l'impossibilité d'atteindre par les mots la vérité éclatante qui les fonde, qui est la vérité de l'homme fier et insoumis, la vérité nue qu'est la poésie. Bon, je tenais à lire ce texte, j'ai dit tout à l'heure pourquoi, et effectivement, à partir de tel texte qui situe tout à fait bien le lieu à partir duquel aujourd'hui on peut parler, je crois que là seulement on peut commencer à parler effectivement des différences qui existent et qu'on ne saurait nier entre Bataille et Breton, mais de la volonté intéressée, on pourra dire pourquoi tout à l'heure, d'opposer aujourd'hui ces deux pensées.
Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Si. Puisque, en réalité, ce texte veut dire qu'on ne peut pas être surréaliste. Et, en ce sens, Bataille, disons, est d'accord avec le surréalisme dans la mesure où il est contradictoire d'être surréaliste. Le surréalisme, c'est, au yeux de Bataille, cette contradiction.
Je ne vois pas du tout en quoi, dans ce texte, enfin, vous sollicitez curieusement les mots, n'est-ce pas? Je ne vois pas en quoi il parle de l'impossibilité d'être surréaliste. Peut-être qu'on pourrait.
Si, parce qu'il dit, c'est que
l'inculpé d'être surréaliste.
Non, il dit
dans le sens, pardon. Dans le sens où, par exemple, à travers les analyses du surréalisme qu'ont faites par la suite des gens comme Blanchot et Nascolo, on a reconnu, on a admis que le surréalisme était un projet. Pas une chose réalisée, mais un projet. Alors, en effet, on peut parler de la difficulté d'être surréaliste. Mais impossibilité, il n'en sort absolument pas de ce texte qui est lu. Alors, comment, où?
Bataille parle de la nécessité dans laquelle le surréalisme était de se trahir. Mais de l'essence même du surréaliste, d'avoir dû se trahir.
Oui, comme on pourrait dire que lui, Bataille, en effet, comme l'a remarqué Bailly, lui, Bataille a dû aussi se trahir dans la mesure où il a laissé une œuvre. Et non seulement d'ailleurs une œuvre théorique, mais une œuvre romanesque, une œuvre de fiction.
Bon, le problème est donc de savoir si des deux côtés, cette trahison nécessaire se situe au même niveau.
Ben, elle se situe au niveau où il y a toujours trahison pour un écrivain, pour un intellectuel qui est animé par un certain nombre d'exigences, de principes, n'est-ce pas? Il y a toujours trahison à se livrer à l'acte dérisoire d'écrire, et l'acte encore plus dérisoire de publier et de créer des œuvres. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors, on évite cette trahison par une espèce de distance et un petit clin d'œil à l'égard de ce qu'on écrit, un peu d'humour. Oui, on peut l'éviter relativement. Mais il est bien évident que écrire quelque chose, et qui plus est le publier, c'est accepter de trahir des exigences très profondes. En tout cas, je crois que c'était dans la pensée de Bataille, dans la pensée surréaliste fondamentale.
Oui. Enfin, finalement, effectivement, la question de la trahison se pose à partir des principes. Quels sont les principes pour Bataille? Il n'y en a pas. Il y avait un des textes qui était dans le catalogue, avait un exergue où Bataille disait « Je hais les gens qui n'ont pas de règles de vie ou ceux qui en ont une fondée sur des principes ». Ce qui est fondamental chez Bataille, c'est justement qu'il n'avait pas de principe. Et c'est pourquoi la trahison en question, dans le mouvement de son écriture, n'a pas du tout la même fonction que celle qu'elle peut avoir chez le surréaliste.
Il y a ce texte de Breton.
Enfin, en vérité, s'il s'agit de rechercher des différences, enfin on tourne un peu en rond là, parce que s'il s'agit de rechercher des différences entre la pensée de Bataille et la pensée de Breton, il est bien évident qu'on en trouvera toujours, et c'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité de la pensée de l'un et de l'autre. Ce qu'il s'agit de voir, c'est sur un plan. Fondamentale sur un certain plan de choses essentielles qui passent à travers ce que l'un et l'autre ont reconnu comme agissant pour l'esprit dans le passé à travers Sade, Lautréamont et quelques autres. S'il s'agit de voir, et j'irai plus loin par la suite, n'est-ce pas, si d'une part de leur vivant et au-delà de leur vie aujourd'hui, s'il y a encore des vecteurs qui peuvent être pour la jeunesse d'aujourd'hui particulièrement agissants. Et c'est là que je voudrais enfin développer brièvement un petit point, c'est que ce qui est important, à mon sens, aujourd'hui en 1971, c'est de voir comment, indépendamment des chapelles, des milieux littéraires parisiens, des revues tout un peu figées, et évidemment très informées de ce qu'a été le surréalisme et de ce qu'a été l'œuvre de Bataille, si dans la jeunesse, qui est actuellement, je n'apprendrai rien à personne, qui est en véritable ébullition, si les œuvres de Bataille et de Breton, et auxquelles on pourra joindre l'œuvre d'Artaud, n'est-ce pas, comment ces œuvres sont reçues dans la jeunesse. Alors, à cet égard, aujourd'hui, je ne témoignerai que d'une impression personnelle fondée sur des conversations avec certains jeunes et sur l'examen de certains textes qui sont issus des différents comités d'action de mai 68, il m'est apparu une chose évidente. C'est que, à la faveur de la révolution de mai 68 qui a été faite contre toutes les institutions, et à commencer par les institutions politiques que représentaient le gaullisme et son gouvernement et le Parti communiste complice, n'est-ce pas, l'œuvre de Bataille et l'œuvre de Breton et l'œuvre d'Artaud ont été vues à partir d'un point focal, ont été comme réinventées par les jeunes et ont été reçues comme des œuvres d'essence, mais comme une nouvelle œuvre. Il y a eu une sorte de mutation, de transformation, et sont reçues par un certain nombre de jeunes aujourd'hui comme un nouveau message unique dans ses contradictions et dans ses similitudes, d'essence purement libertaire. Il s'agit véritablement d'opposer à ce qui est, institutionnellement parlant, la plus grande force de négation, dont on sait qu'elle n'a pas besoin de se soucier de l'argument éternel, de dire « mais qu'est-ce que vous allez construire après ?» n'est-ce pas ? Là, on est véritablement, et ça c'est vrai chez Artaud, c'est vrai chez Breton, et c'est vrai chez Bataille, et cette jeunesse sait le reconnaître aujourd'hui, indépendamment des anecdotes et des querelles dont on nous parlait tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est une force puissante de destruction, de négation d'un état de choses qui aliène totalement la vie. Alors, je crois que c'est sous cet angle-là, quand on aura fait l'impasse, n'est-ce pas, et quand on aura, se sera livré à toutes les discussions de caractère académique qu'on voudra sur les oppositions de la pensée de Bataille et de Breton, c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir aujourd'hui et voir comment ces trois œuvres constituent un levier pour l'avenir d'une pensée essentiellement subversive.
Madame, je serais enchanté que vous tourniez le micro de l'autre côté, parce qu'ici, il me semble qu'il y a peut-être des jeunes qui pourraient répondre. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui ont lu Bataille, Artaud et Breton ? Non, il semble pas. Personne ne l'a.
Le fait que des jeunes vous répondent, ça va se faire une enquête statistique ici, et ça ne répondra pas de toute façon à la question qu'on peut poser ici. C'est pas parce que vous posez une question à une jeunesse, mais on ne va pas y répondre les jeunes qui sont individuellement, ça signifiera strictement rien. Ce serait une enquête statistique qui ne révélera rien du tout sur la portée subversive des œuvres de Bataille ou de Breton ou de Artaud. Ça signifiera rien. Je crois que la question, on n'a pas à y répondre de cette façon. C'est pas IFOP, enfin.
Bah, c'est-à-dire, non, c'est pas seulement IFOP. Je crois que monsieur posait la question, c'est que simplement si quelqu'un. Moi, en somme, j'ai lancé le ballon un petit peu. S'il y a quelqu'un, si un jeune en effet voulait répondre, soit pour me contredire, soit pour quelqu'un qui me trompe totalement, soit pour approuver avec une nuance ou non, ça serait très intéressant, indépendamment de toute une statistique.
C'est une question que je me suis posée. Lorsque Mme Cadou m'a parlé la première fois de son projet d'exposition et de l'enthousiasme qui m'a étonné, parce que je raisonne un peu, que Artaud, Bataille et moi j'étais certain qu'on pourrait ajouter Breton, soulevaient parmi les jeunes. Mais tout de même, on va les secouer.
Ah,
personne n'a lu Breton, Bataille, Artaud. Alors il faudra aller à la source.
Mais je vois bien des choses subversives, n'est-ce pas, dans le bon sens du mot, n'est-ce pas, dans les œuvres de Bataille, certainement. La poésie, n'est-ce pas, dans l'esprit de Bataille, est foncièrement une subversive. Ça met en cause, pas, mais cause soi-même, et pas les institutions, soi-même, que doit agir. La poésie sur soi-même.
Enfin, je pense que. Moi, je pense avoir trouvé chez Bataille et Artaud, je connais mieux que Breton une pensée subversive, mais je crois que le niveau. La question se place surtout sur un plan politique et qu'il s'agit de savoir. Si la subversion dans la littérature est à même de renverser vraiment l'idéologie qui nous domine, et c'est le dernier point qui est recherché finalement.
Je pourrais dire un petit quelque chose un peu différent, mais je crois que aussi bien à Nanterre qu'une bonne partie des jeunes qui en mai 68 étaient sur les barricades pensez beaucoup plus à Dada qu'à Breton, qu'au surréalisme. Et c'est pour ça que quand vous avez dit Breton, Bataille et Artaud, d'accord, enfin. Mais pour Breton, presque plus Zara que Breton. Vous voyez, enfin, Dada vraiment, Dada explosant, Dada détruisant tout, enfin, vraiment le grand dadaïsme.
C'est vrai, mais moi, enfin, je ne faisais pas allusion, alors je me suis mal expliqué là-dessus, mais je ne faisais pas allusion très précisément au mouvement, disons, de mai, mais à certains éléments de réflexion qui sont apparus par la suite, dans les travaux. Oui, c'est ça, il y a eu une réflexion, parce que vous avez raison, c'était Dada qui informait tout ça, et pas du tout Bataille. C'était Dada, et ni Breton, ni Bataille, c'était Dada et Artaud aussi. Et quelques autres, mais enfin, en effet, c'était beaucoup plus de caractère dadaïste. Mais ensuite, il y a eu un mouvement de réflexion qui a porté ces mêmes jeunes gens à Breton, le surréaliste, et à Bataille.
Mais c'est même un petit peu le mouvement chronologique. Enfin, il y a eu le grand raz-de-marée Dada, et après, c'est bien.
Je pense que si l'on place Bataille à côté de Breton dans la face au climat insurrectionnel de mai 68, il y a une différence qui apparaîtrait, je pense, et qui serait visible face justement aux masses institutionnelles. L'une comme l'autre, n'est-ce pas, de celles que vous avez évoquées. Parce que la différence fondamentale probablement entre Bataille et Breton, là, c'est que Bataille est plus hegelien que Breton. Et que des phénomènes comme le stalinisme, par exemple, auxquels tous deux s'opposent, avec une résolution peut-être égale, ne sont pas appréhendés de la même façon par l'un ou par l'autre. Et Bataille a vis-à-vis du personnage de Staline et de tout le poids historique qui l'accompagne, une attitude qui peut être comparée, c'est une chose d'ailleurs que Lyris me disait un jour, parlant du côté cogévien de Bataille. Il y a quelque chose dans la vision que Bataille a de Staline qui est comparable à celle que Hegel avait de Napoléon, aussi surprenante ou irritante que puisse être la comparaison. Enfin, il y a dans le Staline de Bataille quelque chose de l'homme sur son petit cheval arrivant après la bataille d'Iéna. C'est-à-dire que Staline a gagné, il a gagné la bataille sur Trotsky par exemple, donc quelle que soit la répulsion que lui Bataille éprouve pour Staline, Staline l'intéresse. Alors que Breton a en face de Staline une réaction de négation absolue, et radicale, et sans aucune atténuation possible. Alors, entre le Bataille d'Acéphale, par exemple, qui est à cet égard plus près de Breton, qui est beaucoup plus négatif, et puis le Bataille de Critique, de la revue Critique, il y a justement presque un accroissement de l'hégélianisme. Bataille s'intéresse vers 48-49 à Staline, donc comme un espèce de phénomène historique qui est encore vivant, c'est pour ça qu'il est hegelien, parce que Hegel s'intéresse à ce qui est sous ses yeux, Monsieur Napoléon est là dans la rue, il marche, il est sur son cheval, et Hegel va le voir. Et supposons que Staline soit venu à Paris, qu'il ait été reçu par le général de Gaulle, ou par, je ne sais pas, par Georges Bidault, à l'hôtel de ville, eh bien, Bataille serait allé voir. Breton, non, je suppose.
Oui, non, mais j'aimerais
d'autant plus. Oui, non, c'est pas encore.
J'aimerais d'autant plus dans ce sens qu'il y avait en effet, chez Breton, et j'en témoigne, une passion anti-stalinienne, enfin d'une virulence extraordinaire qui lui, enfin je me souviens de très nombreuses discussions que j'avais avec lui et qui vont faire peut-être un peu anecdotiques, mais où il disait par exemple, bon, eh bien, on peut admettre de la classe ouvrière dupée par le parti communiste, d'accord, mais les intellectuels, jamais, n'est-ce pas? Là, il y a une souillure indélébile, Aragon et toute la clique, jamais, en aucune manière, ça c'est la souillure définitive, tout l'eau de la mer, etc., etc. Il y avait donc une véritable passion chez Breton, et ce que vous dites de Bataille, bien, je n'ai pas connu Bataille, mais d'après les témoignages que j'en ai, en effet, il pouvait contempler ça d'un œil un peu plus serein, disons, et animé par cet hegelianisme, aller voir, en effet, si ça lui... Chez Breton, il n'en était pas question. Enfin, il faut avoir assisté à son explosion de joie à la mort de Wyszynski, n'est-ce pas, pour savoir de quoi il était capable. Il faut avoir, comme je l'ai encore, un numéro des Lettres françaises où l'article d'Aragon sur la mort de Giacometti est biffé de traits de crayon rouge et bleu, rageur, pour savoir qu'est-ce qui pouvait l'animer, parce que c'était à la mesure d'une espérance énorme qui avait été trahie, de quelle manière, on le sait. Alors certainement que là, encore une fois, sur les divergences entre l'un et l'autre, il y avait une...
Oui, et alors c'est là que je dirais que Bataille est le plus hegelien des deux, parce que qu'est-ce qui se posait la question en 1930 d'entrer dans un parti politique existant et lié à la Révolution d'octobre par toute une chaîne historique? C'était Breton, c'est pas Bataille. Bataille, semble-t-il, autant qu'on sache, s'est jamais posé une question de cet ordre. Donc l'idée d'une entrée dans l'histoire pratique et de se mettre à tenir ça dans ses mains, ça ne semble pas entrer dans ses vues, dans ses projets, ses considérations d'existence. Alors que pour Breton, c'est au contraire quelque chose d'essentiel d'entrer dans ce parti, ou d'en sortir, ou de se demander s'il ne va pas sinon y re-entrer, du moins reprendre des liens par l'intermédiaire de l'Association des écrivains révolutionnaires, etc. Donc c'est tout le temps, dans les années 30, une question prégnante pour Breton. Si vous voulez, Breton est en face de ces réalités existante comme pouvait l'être un révolutionnaire français des années que Marx a vécues, à Paris dans les années 1840. Est-ce qu'on, avec qui on en, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on essaye de tenter une action? Ça marche, ça ne marche pas. Il y a des chocs et des scissions, etc., et des ruptures tragiques, comme il y en avait d'ailleurs entre Marx et Proudhon, ou entre Marx et Bakounine, ou entre Marx et Breitling, etc. Au contraire, le père Bataille, là, il est assez proche de ce que serait Hegel. Hegel à Paris, pas supposant Hegel venant à Paris en 1844, eh bien lui, on ne le voit pas se demandant s'il va entrer dans les cercles blanquistes ou pas. S'il va adhérer au mouvement ouvrier français ou pas. Marx, au contraire, il se demande ça tout de suite, avant même d'avoir découvert le marxisme, enfin d'avoir pensé le marxisme. Donc je crois que là cette espèce de position politique de Bataille, c'est celle qui me paraît dominer chez lui et va aller en croissance, cette espèce de position dialectique, mais peut-être plus hegelienne que marxiste. Mais alors, en revanche, il y a un renversement des rôles. Il y a un renversement des rôles, il me semble, et qui m'apparaissait pendant que Jean-Christophe Bailly parlait de citer une certaine phrase sur le rapport entre Bataille et le surréalisme. Jean-Christophe Bailly, citant une phrase où il est dit qu'il est incompatible, enfin qu'il y a incompatibilité radicale entre surréalisme et Bataille, me semblait avoir raison d'être réservé. Parce que dire qu'il y a incompatibilité entre le surréalisme et Bataille, c'est avoir l'attitude la moins dialectique qui se puisse. Car la notion d'incompatibilité n'est pas dialectique du tout. Et justement, Bataille ne considère pas du tout qu'il soit incompatible d'être Bataille et d'être surréaliste, précisément parce que ce qui est dominant tout au long de la vie de Bataille également, c'est d'être, par rapport au surréalisme, une espèce de critique, une espèce de pensée critique.
Mais c'est pas Bailly qui a dit ça.
Non, justement, Bailly disait que dire que... Non, Bailly était réservé à l'égard de l'affirmation selon laquelle il y a incompatibilité entre le surréalisme et Bataille. Il faut que ce soit bien clair. Je suis peut-être mal exprimé. Bon, et bien là, je crois que Jean-Christophe Bailly avait raison, parce que, en effet, dire qu'il y a incompatibilité, d'ailleurs, entre quoi que ce soit, c'est avoir une affirmation pas du tout dialectique. C'est une affirmation, à la rigueur, dans la logique formelle d'Aristote, mais ce n'est pas du tout une affirmation dialectique. Et particulièrement là, parce que Bataille, donc, c'est une... Je crois que son point fondamental, c'est ça le noyau de ce qu'on peut dire aujourd'hui, sur le rapport entre surréalisme et pensée de Bataille, c'est que tout au long de sa trajectoire, Bataille est une critique du surréalisme. Mais une critique, pas du tout au sens où un critique littéraire fait la critique d'un bouquin dans un journal, mais au sens justement où Marx est une critique de Hegel ou une critique de l'économie politique. Ça ne veut pas dire que l'économie politique est incompatible avec Marx. Ça veut dire que, à mesure que le procès de l'économie politique se développe, et il n'a pas fini de se développer, la pensée de Marx essaye de l'accompagner tout au long et de le déchiffrer. Alors ça veut dire, au contraire, que l'économie politique, c'est très important pour Marx. Et de même, le surréalisme, c'est très important pour Bataille. Et alors, s'il fonde une revue qui s'appelle Critique, et si le premier article qu'il écrit dans cette revue Critique, c'est précisément sur le surréalisme, et le deuxième article de nouveau, d'ailleurs, cette fois en prenant un texte de Breton comme point d'appui, eh bien c'est que vraiment, justement, c'est pour lui l'objet fondamental. Le surréalisme, c'est pour lui probablement la pratique poétique fondamentale du XXe siècle. Disons, après la coupure de la Première Guerre mondiale, le phénomène pratique fondamental dans le langage poétique, et par conséquent, la réflexion première, comme critique, doit suivre tout cela. Et c'est ce qui fait que Bataille revient tout le temps au surréalisme, après avoir coupé avec lui à un moment ou à un autre, il y revient tout le temps, et finalement il se retrouve même à l'exposition, à certaines manifestations d'œuvres, enfin, ou dans ce numéro de La Clé, qui est en bas, enfin, qui est place du Panlou, là, rue du Panlou. Oui. Alors je crois que c'est dans ce type de relation dialectique qu'il faut penser le rapport entre surréalisme et pensée de Bataille.
Je me demande, à propos de mai 68, s'il n'y a pas un certain éclaircissement à apporter au mot « contestation ». C'est comme le mot « communication » dont Bataille a beaucoup usé. Maintenant, « communication » au pluriel forme le titre d'une revue. J'ai l'impression que « contestation » et « communication » n'ont pas le même sens du tout dans notre bouche ou dans la bouche des sociologues aujourd'hui et dans la bouche de Bataille. La contestation, dont il a parlé à plusieurs reprises, mais en particulier dans l'expérience intérieure, indique une sorte de lutte à l'intérieur de lui-même et d'une dialectique, mais intérieure. Il parle de contestation lorsqu'il parle de cette suite entre extase, angoisse, etc. Et puis l'état se répète. Mais j'ai l'impression que Bataille était un homme divisé par moments, en lutte contre lui-même, ou peut-être contre ce qu'il avait été à un certain moment. J'ai l'impression que Breton, et là c'est une question que je vous pose parce que j'ai rencontré Breton une fois et je le connais, je ne connais pas personnellement, j'ai l'impression que Breton n'était pas un homme divisé. J'ai l'impression qu'il allait tout dans un sens, mais je ne connais pas assez Breton pour nuancer cette opinion. Tandis que chez Bataille, il y a évidemment des éléments assez extraordinaires qui pourrait se traduire sur le plan humain par un élément qu'on ne trouve pas chez Breton, qui est l'impression de malaise. Il y a dans les livres, dans certains livres de Bataille, un malaise extraordinaire. Il tire de ce malaise des effets qui sont à la limite du déplaisant, qu'il s'agisse par exemple de l'ABC ou bien des premières pages de ma mère. On a l'impression que Bataille est à la fois fasciné et horrifié par ce qu'il attire. C'est peut-être les traces d'une éducation chrétienne que je pense que Breton n'avait pas. Breton était beaucoup plus dans un seul sens, et Bataille a été déchiré, il me semble, à certains moments. Mais c'est peut-être une explication un peu courte.
Je crois que d'autres personnes comme Philippe Audouin ou Marguerite Bonnet, qui ont bien connu Breton, pourraient peut-être vous répondre sur cette question. Non, mais parce que j'ai déjà beaucoup parlé.
Non, très brièvement, en effet, la déchirure paraît essentielle chez Bataille. Chez Breton, elle paraît beaucoup moins. Je ne suis pas sûr qu'on puisse nier a priori que Breton ne fut quelqu'un finalement de divisé assez profondément. Si on ne peut pas parler de déchirure, en effet, me semble-t-il, c'est peut-être parce que cette division, il n'a pas centré son intérêt dessus. Il a centré son intérêt, je crois, vers dans le sens d'un dépassement de cette division. Je pense très particulièrement au moment où, à l'époque où sa pensée se forme et où entre, disons, un certain idéalisme qui transparaît dans l'introduction au discours sur le peu de réalité, qui paraît encore dans le premier manifeste, et un parti pris de matérialisme, il semble que Breton ait, je ne dis pas hésité, mais enfin que sa pensée ne se soit pas tout d'abord au départ clairement déterminée dans cette alternative. Ensuite, il a embrayé, si je puis dire, carrément vers des choix matérialistes et vers un mode plus volontiers affirmatif. Et là, on pourrait peut-être remarquer quelque chose qui m'a toujours frappé, enfin j'ai pratiqué depuis très longtemps l'un et l'autre, et pour moi ils sont indissociables, que Breton se rapproche de Bataille dans la formulation de sa pensée au moment où Breton est le plus négatif, et ça lui arrive même très souvent, malgré tout de même un parti pris certainement plus affirmatif. Et réciproquement, je crois, on voit passer chez Bataille, lorsqu'il a tout de même le souci d'affirmer, même dans un ordre presque éthique, ou dans un ordre, j'allais dire métaphysique, non, c'est un bien gros mot, et bien là, Bataille se retrouve quelquefois très près de Breton. Je pense à une conférence qu'il faisait à Cercle Ouvert autrefois, et où sur l'érotisme et la fascination de la mort, et comme déchirement à partager, je vous assure que c'était assez lourd et assez insupportable pour les auditeurs, et dans l'évasif comme ça, la possibilité d'une impensable unité de ces êtres séparés qui s'explorent dans la déchirure érotique, Aller un peu plus loin et conclure, Bataille a cité les vers de Rimbaud, elle est retrouvée, quoi, l'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Et là, je vous assure qu'il était très près de Breton. C'est une petite remarque qui ne prétend pas faire beaucoup avancer le débat, mais enfin, vous avez parlé de déchirure, je crois que ça appelait ce petit développement.
Puisque les jeunes se refusent à répondre, il me semble que nous devrions un petit peu répondre pour eux. Non, parce que nous les écoutons. Je suis personnellement en rapport avec un grand nombre d'étudiants de Vincennes, de Nanterre, et je leur pose la question fort pertinente que posait tout à l'heure Schuster, qu'il a, je crois, raison de poser. Eh bien, je crois que Schuster a parfaitement raison lorsqu'il vous montre cette confusion qui se fait dans leur esprit entre les trois grands noms qu'il a cités, celui de Breton, celui de Bataille et celui d'Artaud. Et si cette confusion se fait dans l'ordre de ceux qui veulent les sortir de l'époque actuelle, qui veulent les sortir de la répression, qui veulent leur amener une nouvelle mode de vie, un nouveau mode de vie, eh bien ils ne font pas ces séparations que nous faisons ici. Ils voient les choses beaucoup plus largement parce qu'ils pensent de beaucoup plus haut que nous. Ils ont retenu de Breton, ils ont retenu de Bataille, ils ont retenu d'Artaud quelques déclarations, quelques phrases, et cela leur suffit, et ils ont parfaitement raison, parce qu'ils doivent aller plus loin. Je pense que si une séparation est à faire entre Breton et Bataille, c'est peut-être au niveau de l'action. Devant l'action, Breton allait au-devant. Il la cherchait. Je pourrais dire qu'il cherchait la bagarre. Je l'ai vu dans certaines occasions, je fais allusion à l'avant-guerre, bien entendu, la chercher jusque dans le meeting. Je me souviens encore d'une réunion d'une maison de la culture, à ce moment-là, une maison des écrivains et artistes révolutionnaires, où nous avions pour défendre ni plus ni moins que la libération de Victor Serge. J'y n'ai pas osé y faire allusion hier après-midi, mais enfin il faut voir que ça a été un des grands mobiles de notre action dans la préparation du fameux congrès de 1935, du congrès des écrivains pour la défense et pour la culture. Nous avions deux buts en y allant, et deux seuls buts. Le premier, c'est celui que je disais hier, et c'est celui de nous dresser contre l'Union sacrée et le fascisme, c'est-à-dire de nous opposer à la fois au conformisme bourgeois, au conformisme chauvin, national art, et d'autre part à cette énorme trahison qu'était le Parti communiste français. C'était aussi de sauver la vie d'un homme qui nous apparaissait comme un des plus grands penseurs de notre temps et un des plus grands écrivains français, et qui était Victor Serge, et qui était retenu dans les geôles soviétiques. C'était dans ces deux buts seulement que Breton et les autres sont allés au congrès, et vous savez, l'accueil plus que réservé qui leur a été donné. Eh bien, je pose la question à ceux qui ont connu plus que moi Bataille, quelle a été à ce moment la position de Bataille. Bataille dans la lutte pour Victor Serge. Et je me souviens encore très bien comment la séance s'est déroulée. On nous avait mis, bien entendu, pas dans la salle du congrès, cette salle qui était réservée au grand ténor, et cette salle qui était réservée à Malraux, et qui était réservée à Aragon. On nous a mis dans une petite salle du Palais de la Mutualité, une toute petite salle, une après-midi, et je me souviens là, ceux qui ont parlé, je peux vous dire leur nom, c'est Madeleine Paz, qui appartenait à ce moment au Parti Socialiste Français, et c'est Charles Plisnier, qui a fait, en avocat, un plaidoyer admirable pour Victor Serge. Et je vois ceux qui nous ont suivis, je vois ceux qui ont signé avec nous la pétition que nous leur demandions de signer pour la libération de Serge et pour son retour en France, libération que nous avons finalement obtenue, bien entendu. Mais je vois aussi ceux qui n'ont pas signé. Et je vois des papiers que je n'ai pas osé envoyer à Mme Cadoux parce qu'ils sont trop compromettants, d'écrivains qui sont encore vivants et qui avaient signé mais qui ont retiré leur signature lorsque les hautes têtes du Parti communiste leur ont dit quelle foudre les menaçait s'ils la maintenaient, et qui m'ont retiré leur signature après l'avoir donnée. C'est dans cet esprit que je crois il faut voir le fameux congrès de 1935, et qui montre bien quelle position Breton voulait prendre dans la bataille, car enfin lorsqu'il défendait Victor Serge une petite réunion communiste, il s'exposait non plus à des arguments même violents comme ceux que nous échangeons peut-être ici, mais il s'exposait à des coups de poing. Je vois encore au cours de certaines réunions des chaises voler au-dessus de la tête de Breton et de moi-même et se fracasser sur la paroi derrière nous, et Breton d'ailleurs resté absolument stoïque au milieu de cette grêle, et alors que tout le monde fuyait et que nous avions d'une pousse épouvantable et qu'on a dû venir nous chercher au fond de la salle, nous étions pris comme dans une souricière. Eh bien, bataille, je ne l'ai jamais vue dans un semblable meeting, et je vous demande encore une fois, à ceux qui l'ont vu de plus près que moi, qui pourraient répondre à cette question, quelle a été sa position et que faisait-il au moment du congrès de 1935?
Parce que sur un point précis, l'affaire Victor Serge, en 1932, la critique sociale a publié un appel qui était signé de bataille. 1932.
Dans la critique sociale, c'est-à-dire loin de la foule, loin du bruit, loin du meeting. Mais dans le moment où il faut bagarrer, la révolution, c'est la bagarre. Parce qu'il faut être dans le coup, il faut être avec des ouvriers, il ne faut pas demander aux étudiants qui viennent et qui êtes-vous et à quel parti et parti politique appartenez-vous. Il faut penser. Eh bien là, bataille, il ne pensait pas. C'est Breton.
Vous permettez à quelqu'un de la foule, enfin, de parler. Je réponds au docteur qui est ici présent que les militants n'ont pas toujours besoin que des gens se bagarrent. Et je me souviens tout de même de Bataille apportant son témoignage et son soutien moral à des gens qui luttaient au moment de la guerre d'Algérie. C'est tout de même un geste, et je pourrais rétorquer à ce moment-là, bien que ne connaissant pas du tout M. Breton, est-ce que M. Breton était présent au combat au moment de la guerre d'Algérie? Alors excusez-moi, si nous devons nous lancer des arguments historiques, nous n'aurions pas fini justement.
Il est difficile d'engager la discussion sur ce terrain, c'est vrai.
Et dans la part, puisque j'ai la parole,
je vais faire... À la question que vous posez, je peux vous répondre.
Oui. C'est tout. Bon, alors je suis content. Mais simplement, je veux dire, depuis tout à l'heure, nous qui sommes venus, vous nous avez invités à venir entendre parler de Bataille et de surréalisme. Avec le premier conférencier qui a introduit le débat, il semble que vous l'ayez trop fixé sur Breton et Bataille. Alors, je pose la question, est-ce que Breton est le pape qui définit intégralement le surréalisme, auquel cas, continuez à débattre et nous vous suivons et nous essayons de nous informer, ou bien y a-t-il d'autres aspects du surréalisme que M. Bataille a aperçus, il a été content ou pas?
Merci.
Thank you.